Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Lors de son second voyage missionnaire, l'apôtre Paul avait établi une assemblée locale de l'Église de Christ dans la ville grecque de Corinthe. Hélas, malgré l'enseignement absolument pur qui leur avait été prodigué, celui qui le premier leur avait enseigné la vérité se voit dans la triste obligation d'avertir cette Église naissante du grave danger qu'elle court. Il leur dit en effet, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ces paroles sont empreintes à la fois de douleur et de solennité. On sent que l'apôtre, qui pourtant, comme il le dit lui-même, a posé le fondement comme un sage architecte, désire mettre les hommes en garde contre les divisions. Déjà, l'Église établie dans cette ville au 1er siècle s'était donnée des chefs et se subdivisait elle-même en catégories selon la personne qui les avait enseignés ou convertis. Paul ajoute, « Chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ?» Il va d'ailleurs s'efforcer tout au long des deux épîtres adressées aux Corinthiens de faire ressortir leur attachement aux choses terrestres, ainsi que leur opposition et leur division profonde. Il va leur démontrer qu'ils sont pourtant tous les serviteurs d'un même maître et qu'il est absolument essentiel de respecter cette unique fondation possible qu'il a lui-même posée, Jésus-Christ. Christ est-il divisé? Ce cri d'alarme s'adresse toujours aux hommes du XXe siècle. Ce monde qui prétend professer le christianisme et qui s'est donné, tout comme les Corinthiens, des maîtres humains. Les noms de Paul, d'Apollos, de Céphas et même de Christ ont tout simplement été remplacés par ceux de Joseph Smith, de Madame Eddie Becker, de Messieurs Rutherford, William Miller, Antoine, Freytag ou encore Paul VI, selon qu'on est mormon, scientiste chrétien, témoin de Jéhovah, adventiste, antoiniste, ami de l'homme ou catholique, et j'en passe. C'est à ce monde religieux déchiré, divisé, morcelé même, que s'adresse Paul quand il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Cette unité dont on parle tant en matière de religion ne peut s'obtenir, comme le démontrent d'ailleurs les Écritures, qu'à partir de l'application d'un principe exprimé en peu de mots par l'apôtre Paul. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il ne suffit pas de se contenter de modifier les structures d'un édifice ébranlé ou fissuré, car ce ne serait là que le consolider d'une manière toute provisoire. C'est à la racine du mal qu'il faut aller, c'est-à-dire aux fondations mêmes. Durant la dernière guerre, les Allemands ont construit le long des côtes de France, de Belgique et de Hollande des ouvrages fortifiés en béton armé. Leur masse, parfois énorme, devait être garante de leur solidité et de leur puissance. Cependant, de nos jours, peu d'entre ces ouvrages sont encore debout, car bâtis sur le sable des dunes, ils n'étaient pas munis de fondations suffisantes. Il en est de même en ce qui concerne le monde religieux, dit chrétien. S'il n'est pas doté d'une fondation solide, il ne peut être christianisme véritable. Toutes les consolidations de structures, de doctrines et d'organisations des Églises ne seront jamais que des mesures provisoires. C'est la base qu'il faut transformer ou même changer radicalement. Le mot « fondation » est un terme architectural désignant la partie la plus basse d'un édifice sur laquelle repose la construction tout entière. Cela désigne également le commencement de quelque chose ou encore le principe essentiel d'un système ou d'une argumentation. Ces trois définitions s'appliquent à cet édifice spirituel que représente l'Église du Seigneur. En effet, les enseignements de Jésus doivent en être l'unique fondement. La rédemption par son sacrifice, le commencement, et la personne de Christ, le principe essentiel. Voyons cela un peu plus en profondeur. Toute Église se réclamant du nom de chrétienne ne peut avoir que les enseignements de Jésus-Christ pour base, sinon elle ne serait qu'une assemblée purement humaine. En effet, le Nouveau Testament n'a pour unique fondateur, pour unique source et pour unique sujet que ce Christ, Fils de Dieu. Tous les privilèges, toute doctrine et toutes les bénédictions proviennent uniquement de lui. C'est ce qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau, « L'Évangile porte en lui une telle marque de vérité. Il est tellement inimitable que même si on supposait qu'il ait pu être inventé, son auteur serait plus grand que celui dont il parle, Jésus-Christ. Le seul, l'unique chemin qui mène à Dieu ne passe nullement, contrairement à ce que l'on a tendance à croire, par les théories, la philosophie et la théologie des hommes, aussi saints, aussi doués soient-ils. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Fils de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Au palais des Doges à Venise, un artiste célèbre du XVIe siècle a peint au plafond une immense fresque. Mais les voûtes sont tellement hautes qu'on ne pouvait guère la regarder que pendant quelques instants, à cause du mal au cou que cela provoquait. La municipalité eut alors l'idée géniale, un jour, de mettre à la disposition des visiteurs toute une série de miroirs orientables sur pied. Grâce à cela, l'examen du chef-d'œuvre devint chose très aisée. Il en est de même avec Dieu. Pour le voir, pour discerner toute l'immensité de ses desseins et de son amour, il faut d'abord fixer le regard sur son Fils. Alors, tout paraît plus simple et tellement plus accessible. Oui, comme le proclame la Bible en 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est son sang seul qui nous justifie aux yeux de Dieu, aucun autre. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés, nous dit la Bible. Aux États-Unis, un brave homme acheta un jour un esclave au marché. Quand il revint chez lui, il lui dit, « Je ne t'ai acquis en réalité que pour te rendre ta liberté, car tu as une âme comme moi. Va, tu es libre. » Mais le noir lui dit avec une voix poignante, « Je veux rester avec toi et te servir. » Tu m'as acheté avec ton argent, je ne veux pas aller ailleurs, je reste avec toi, car je vois que tu es bon. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous avons été rachetés très cher par Jésus-Christ, alors pourquoi vouloir aller ailleurs? Ne lui devons-nous pas tout? Tous ces hommes qui sont les fondateurs de tant d'églises, qui ont au cours des siècles échafaudé tant de doctrines, sont-ils fils de Dieu? Sont-ils morts sur une croix, dans d'atroces souffrances? Leur sang nous purifie-t-il de nos péchés? Le chrétien ne peut être engendré que par une foi véritable, une foi vivante. Cette foi, c'est la résurrection de Jésus. L'Écriture annonce, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Le Christ qui est dans le tréfonds du cœur du vrai chrétien, c'est tout à la fois le salut complet, la victoire sur la mort, l'entrée dans le royaume de gloire, la résurrection des morts, le bonheur éternel en présence de Dieu. Tout cela ne repose que sur le seul Sauveur. Nous vainquons par lui, nous mourrons heureux en lui, nous ressuscitons par sa puissance, nous recevrons la vie éternelle qui ne s'écoule que par lui. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire ces quelques pensées exprimées par un poète inconnu du XVIe siècle. Christ est une pierre précieuse dont les hommes ne connaissent pas la valeur. Un soleil qui éclaire sans arrêt, mais dont les hommes ne voient souvent pas l'éclat parce qu'il ne marche pas dans sa lumière. Il est un jardin plein de douceur, une ruche pleine de miel, un soleil sans tache, une étoile toujours brillante, une fontaine toujours pleine, un ruisseau qui coule sans arrêt, une rose toujours en fleur, une fondation qui jamais ne fléchit, un guide qui jamais ne se perd, un ami qui jamais ne vous quitte. Aucun esprit ne peut pleinement saisir sa gloire, sa beauté, sa valeur et son importance. Non, aucune langue ne peut pleinement le faire. faire valoir. Il était un matin sans nuages, un jour sans nuit, une rose sans épines. Ses yeux brillent de tendresse, de ses lèvres coulent du miel et de son cœur ruisselle l'amour. Les chrétiens ne sont nourris que par ses mains, guidés que par ses paroles. Ses blessures sont leur vie, la santé de leur âme, la paix et le repos. Au premier siècle de notre ère, l'apôtre Paul posait déjà une question qui, dans sa bouche, prend la forme d'un appel pathétique. Christ est-il divisé? Si l'on posait la même question à ceux qui dirigent actuellement les centaines de sectes qui divisent le monde religieux, que répondrait-il? Je suis persuadé que tous en cœur, ils diraient non, Christ n'est pas divisé. Et pourtant, ne proclament-ils pas chacun de leur côté, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas? Nul ne pourra m'accuser d'adopter une attitude négative. Si je vous demande maintenant, pourquoi ne reviendriez-vous pas vous aussi à la fondation même de la religion de Jésus? Seul ce fondement-là vous permettra de construire une vie spirituelle qui jamais, non jamais, ne risque de s'écrouler. Quel est-il? Les enseignements de Jésus, la volonté de Dieu. La connaissez-vous? Venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement, en tant qu'art, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je reviendrai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, mon Père suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime.